Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous retrouverons dans un instant nos invités pour parler de ce que l'on sait exactement du bombardement en 2004 d'un camp militaire français Boaké en Côte d'Ivoire. Direction d'abord Bamako, retrouver Dr Ali Tunkara, notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Ali Tunkara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel à Bamako, au Mali. Dans un rapport, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, accuse l'armée française de bavure en début janvier dernier lors d'une frappe dans le village de Bounti qui a coûté la vie à 19 civils qui assistaient à un mariage. Paris conteste le rapport et dénonce la méthodologie utilisée. Quelle est votre analyse sur cette affaire ?
Clairement, les frappes aériennes de la part de l'opération Barkhane française dans le Sahel, elles sont multiples et diverses. Incontestablement, lors de ces frappes, des bavures sont tout à fait possibles, même si la France rejetterait l'approche méthodologique empruntée par les experts des Nations Unies pour les cas précis de Bounti. C'est vrai que quand on se réfère à ces frappes de 10 janvier 2021, naturellement, ce sont des frappes incontestablement au regard de l'approche méthodologique quand même investie, plus d'une centaine d'entretiens individuels, sans pour autant aussi oublier toutes ces questions des focus group avec des autorités locales, en l'occurrence même des autorités militaires, des lambda, et tout cela laisse entendre que aujourd'hui, ce qui est reproché à l'armée française, en particulier à la force Barkhane française, en termes de bavure, en termes de violation grave de droit humanitaire international, sont des accusations effectivement qui ont un fondement objectif au regard de différents témoignages, au regard de l'expertise avérée qui sont parvenus à ces résultats.
Si bavure il y a eu, qu'est-ce qui a pu se passer selon vous ?
Alors concrètement, même si la partie française, on aura du mal à admettre une telle hypothèse, c'est possible que bavure serait plutôt liée à l'insuffisant d'enseignement collecté, lié au fait que l'armée française, il faut quand même le rappeler, elle brandit son attitude de collaborer avec les armées du Sahel, en particulier avec l'armée malienne. Mais bavure témoigne à suffisance que les frappes ont lieu et sans pour autant qu'elle n'associe effectivement l'armée partenaire qui est les forces qui sont les forces de défense et de sécurité de la République du Mali. Donc je pense que l'objectivité pour le cas précis du centre du Mali, les informations obtenues par l'armée française en termes de renseignement, les différentes investigations faites ça et là, même si la hiérarchie militaire française nous fait savoir que elle a respecté toutes les étapes en termes de collecte avant de procéder à des frappes aériennes, tous les entendre qu'effectivement les étapes ont été sautées. Vous voyez même dans ces frappes aériennes une sorte de vengeance. Rappelons quand même qu'elle avait perdu un certain nombre d'éléments. Incontestablement, qu'on soit militaire ou analyste, ce qui pourrait être aujourd'hui avancé comme hypothèse, ces frappes n'ont pas été nourries par des renseignements objectifs vérifiables.
Comment expliquez-vous l'attitude des FAMA, les forces armées maliennes, dont la hiérarchie avait endossé la version de Paris sur cette frappe sur Bounty ?
Alors, quand on regarde un peu le contexte et la circonstance qui ont caractérisé la venue de la France au Mali en 2013, incontestablement, on peut comprendre cette attitude qu'on pourrait même qualifier du civisme de la part de l'état-major des armées du Mali, parce que l'accord qui lie aujourd'hui la France au Mali sur le plan militaire est un accord quand même qui reste méconnu par un nombre important de Maliens. Lorsque des exactions, des bavures sont l'œuvre de l'armée française, elle n'est pas responsable de ces violations graves des droits humains. Rappelons quand même, des plaintes similaires ont été aussi formulées en 2018, même en 2019, dans la région de Kidal, même dans la région de Gao également. Quelles plaintes, malheureusement, n'ont pas réciproque favorable en termes de traitement, tant par la part du Mali que par la France.
Vous voulez dire que les forces armées maliennes ne sont pas en position de contester la version de Paris ?
Difficilement, parce que lorsque vous êtes sur des théâtres d'opération avec des armées partenaires, la logique militaire voudrait que les responsabilités soient partagées. Naturellement, au nom de cette solidarité des armes, l'armée malienne pourrait être effectivement dans cette posture, découvrir ces bavures qui ont été perpétrées ou qui seraient perpétrées par l'armée française. Donc, au nom de cette solidarité, et surtout au nom quand même de sa situation fragile, cette armée malienne aujourd'hui, elle ne va pas s'hasarder de s'inscrire dans un combat contre la France.
Il n'y a pas d'espoir quant à la possibilité d'une enquête indépendante de la part de la France, comme l'a demandé la MINUSMA ?
Vous ne trouverez aucune armée aujourd'hui, au regard de toutes ces exigences qu'on a vis-à-vis des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, de reconnaître ses propres insuffisances en termes de bavures sur le théâtre d'opération.
Est-ce que cette bavure supposée va renforcer le sentiment anti-français et aussi peut-être l'hostilité contre l'opération Barkhane ?
Les Sahéliens ne sont pas contre la France, mais beaucoup de Sahéliens sont plutôt contre une politique militaire menée par la France.
Docteur Ali Tunkara, merci beaucoup.
Merci.
Directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, à Bamako, au Mali.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
16h15 en temps universel et à Abidjan, où vous nous écoutez sur 91.1 FM, 18h15 à Paris. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Rendez-vous. À la faveur de l'ouverture cette semaine à Paris du procès de l'attaque du camp militaire français de Boaké en Côte d'Ivoire, qui comporte de nombreuses zones d'ombre, eh bien, nous évoquerons ce que l'on sait précisément de cette affaire avec nos invités. Ils sont trois ce soir. Sylvain Guessant, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire, analyste, donc, je le disais, politique. Sylvain Guessant, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Guessant.
Oui, je vous entends.
Oui, bonsoir, monsieur Guessant, bienvenue.
Bonjour, merci.
Et nous avons également avec nous Vincent Hugeux, journaliste, essayiste, enseignant à sciences politiques. Monsieur Hugeux, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, dont les deux derniers que nous allons citer ce soir, « Tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial » aux éditions Perrin, ici à Paris. Et également avec nous ce soir, Pierre-Ali Soumaré. Monsieur Soumaré, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, auditeur, écrivain, auteur du livre « L'homme face à sa finalité » aux éditions du Panthéon, ici à Paris. Nous allons commencer notre émission, messieurs. Je vous propose de partager déjà peut-être ce témoignage retrouvé sur le site de l'Amicale des Anciens du 2e RIMA, c'est le 2e Régiment d'Infanterie de Marine. Voici ce que dit le témoignage. Un bruit sourd, une explosion, un silence et une seconde qui paraît une éternité. L'air est chargé de poussière blanche et de poudre à l'odeur âcre. Sonner le soldat, reprend difficilement ses esprits. Et il poursuit. Il parle d'une scène qu'il décrit comme macabre, une marche où coulent les dernières giclées de sang. Son casque a été arraché, il n'a plus son bras droit ni son gilet pare-balles. Déchiré et éparpillé en plusieurs morceaux. Je voudrais peut-être commencer par vous, M. Sylvain Guessant. Dites-nous, comment en est-on arrivé là ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte dans lequel se déroule cette attaque ?
Merci. Bon, pour la petite histoire, le 11 septembre 2002, le pouvoir de M. Laurent Gbagbo est attaqué. Son ministre de l'Intérieur fait la vie, c'est la même nuit. Et le pays est divisé par la suite en deux, jusqu'au dernier trimestre 2004, où le pouvoir de Laurent Gbagbo a eu le temps de s'équiper. Entre-temps, décide de lancer l'offensive en vue de reconquérir la partie nord du territoire ivoirien occupé par les hommes conduits par M. Guillaume Soro. Alors, au cours de cette offensive, une base militaire française à Boaké a attaqué. On nous parle de 9 morts et de 33 blessés. je crois, 9 soldats français et un citoyen civil américain, ingénieur agronome, qui était parti s'y réfugier. S'ensuit la colère française, naturellement. Les avions ivoiriens qui avaient fini l'opération, qui étaient donc posés à Yamoussoukro, sont détruits au sol. La base de l'aéroport d'Abidjan Pabou est payée par les soldats français.
Là, c'est la riposte de la France après cette attaque contre le camp militaire français.
Donc, les jeunes patriotes descendent dans les rues, s'en suivent les casques de plusieurs PM et PMI français à Abidjan. Abidjan est pratiquement paralysé pendant 3-4 jours. Et c'est là que débute la médiation de M. Thabo Mbeki.
L'ancien président sud-africain. Oui, peut-être on va écouter les autres pour voir si, au moins à cette étape des faits, vous êtes d'accord, M. Uge, le contexte est tel que décrit brièvement par M. Guesson.
J'ai un souvenir extrêmement précis de cet épisode tragique, puisqu'il se trouve que j'étais en reportage en Côte d'Ivoire pour l'Express au moment des faits. Il convient de rappeler que l'avant-veille avait donc été déclenchée l'opération dite Dignité, qui visait donc à recouvrer d'une manière ou d'une autre l'intégrité territoriale et à réinstaurer la souveraineté des autorités qu'incarnait alors Laurent Gbagbo. Je me souviens également de m'être trouvé à Yamoussoukro quelques heures après le raid de représailles ordonné par Jacques Chirac, hein, qui était le locataire de l'Élysée à l'époque, avec le quasi-anéantissement des forces aériennes ivoiriennes de l'époque. Et comme Sylvain Guesson le rappelait, j'ai aussi un souvenir extrêmement précis de l'embrasement quasiment instantané, notamment à Abidjan, la capitale économique, déclenchée par cette séquence d'événements tragiques. Et je pense que nous reviendrons plus tard sur les circonstances, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que très peu de temps après, j'ai été conduit à vérifier auprès de M. François Bocquet, dont nous reparlerons, qui était à l'époque le ministre togolais de l'Intérieur, donc vérifier auprès de lui dans quelles circonstances et par quelle étrange malédiction la France ne s'est jamais véritablement intéressée à 8 des supplétifs biélorusses notamment, qui avaient été durement interceptés sur le territoire togolais.
D'accord. Merci, M. Uge. M. Soumaré, vous êtes là ?
Oui.
Oui, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord au moins sur sur ce contexte ? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez peut-être différents, que vous souhaitez peut-être partager, que vous souhaitez partager ?
Ben, écoutez, le contexte tel qu'il a été décrit par vos deux invités me paraît complet. Nous pouvons noter une triple rupture. La première, au niveau du gouvernement ivoirien, parce que il y avait des accords de Makoursi, de l'INAF Makoursi, qui étaient intervenus en 2003. Et cet accord prévoyait un retour à la paix par des voies pacifiques. Donc, en 2004, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on sorte de ce cadre ? Première interrogation. La deuxième rupture que je peux noter, c'est que la France était placée sous un mandat de l'ONU en tant que force d'interposition. L'ensemble de l'opération Dignité a été fait avec son accord. Elle était parfaitement informée, alors qu'elle avait mission de s'interposer entre les forces. Donc là aussi, il y a une rupture du mandat. Et puis enfin, je note une troisième rupture, qui est le fait que les partis qui ont été d'accord pour construire cette initiative ont connu, je dirais, des déboires, si bien que ça a déclenché une réaction, une chaîne de réactions, voilà, qui était imprévue aux accords qu'elles avaient formés au départ.
Merci. Alors, monsieur,
donc, il y a trois ruptures.
D'accord. Merci à vous pour ce complément, monsieur Soumaré. Monsieur Guesson, vous l'avez mentionné, cette attaque du camp militaire de Boaké intervient en pleine offensive de l'armée loyale, l'armée régulière ivoirienne, contre des positions rebelles qui occupent une partie du pays. Et vous avez également dit qu'il y a des tensions qui s'en sont suivies, une vague de colère des populations ivoiriennes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait exactement qu'est-ce qui a poussé l'armée ivoirienne à s'attaquer à ce camp militaire français ?
Bon, jusque-là, c'est quand même difficile de se prononcer, de trouver des éléments de réponse objectifs à vos questions, dans la mesure où, lorsque l'armée française occupe l'aéroport d'Abidjan Plateau, l'aéroport international que vous voyez, ils ont le temps de prendre avec eux 5 soldats biélorusses qui auraient été impliqués dans l'attaque de Boaké. Ils ont été interrogés par des éléments des forces spéciales françaises pendant 5 jours. Après cela, la France a décidé de les libérer. Et le ministre de l'Intérieur du Togo a pu arrêter, je crois, 14 éléments de...
Monsieur, je le disais.
Encore à la frontière. Oui, à la frontière Gada-Togo. Ils ont été gardés pendant 2 semaines au Togo. La France a demandé qu'on les libère, aurait demandé qu'on les libère, et ils ont pu regagner leur territoire. Alors, quand on voit ces deux faits, s'ils sont vraiment avérés, on se pose des questions sur les raisons qui auraient poussé la force ivoirienne à attaquer l'armée française. Deux hypothèses sont généralement avancées en Côte d'Ivoire. Un, il y aurait eu vraiment une erreur, c'est-à-dire que les forces ivoiriennes auraient pris cette base un contingent ou alors une base des hommes du MPCI de M. Guillaume Soro, et donc auraient tenté de pulvériser cette base. Ou alors, des éléments de l'armée française auraient manipulé, vendu des fausses informations à la force ivoirienne pour leur faire croire qu'il s'agissait là bel et bien d'une base terroriste, d'une rebelle de M. Guillaume Soro, qu'il fallait pulvériser pour donner raison à la Grande France de renverser M. Laurent Gbagbo, de détruire la flotte aérienne ivoirienne et donc de renverser les institutions issues de l'élection d'octobre 2000. Voici un peu les hypothèses qui sont avancées à Abidjan. Mais à vrai dire, il est un peu difficile de se prononcer dans la mesure où, après avoir interrogé les soldats de russes, la France n'a pas, enfin, la France de M. Villepin, de Mme Ayoub-Marie, n'a pas communiqué là-dessus. Oui, ils ont laissé les soldats s'évader dans
donc
la
Donc vous voulez dire qu'il y a des voici doutes aujourd'hui de... qui subsistent sur...
Il y a des doutes.
C'est pas sûr.
Si le Togo garde les 14 éléments biélorusses pendant 2 semaines, pourquoi ne pas les garder si on veut que la vérité éclate?
D'accord.
Il y a des doutes évidents.
Merci, M. Guessant. On va, messieurs, revenir dans quelques instants. Hein, écouter évidemment les autres intervenants sur les raisons de cette offensive de l'armée ivoirienne sur un camp militaire français. Et à tout à l'heure.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos invités ce soir, nous parlons de ce qu'on sait sur l'attaque attribuée à l'armée ivoirienne sur un camp militaire français à Boaké. C'était en 2004. Et nos invités sont Vincent Hugieux, journaliste, essayiste et enseignant à Sciences Po, Pierre-Ali Soumaré, juriste, auditeur, écrivain, et Sylvain Guessant, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Monsieur Hugieux, voilà, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'échange que vous avez eu avec un ministre togolais pour comprendre pourquoi les suspects arrêtés ont été libérés. Où vous a mené votre enquête ?
À 10 ans d'intervalle, François Bocquet m'a réitéré dans les mêmes termes le même récit. Il m'a expliqué ceci. Il faut savoir que François Bocquet est passé par Saint-Cyr, la prestigieuse école militaire. Il avait d'ailleurs parmi ses condisciples un certain François Lecointre, qui est aujourd'hui le chef d'état-major des armées françaises. Voilà pour l'anecdote. Il se trouve que parmi ses condisciples de Saint-Cyr, il y avait aussi 2 personnages qui occupaient des fonctions éminentes à l'époque, l'un à l'antenne togolaise de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, l'autre au niveau de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc les services de renseignement étrangers français. Et il m'explique qu'il a épuisé les ressources du droit togolais, qu'il s'agisse du code pénal local ou des lois antiterroristes, pour trouver le prétexte légal de maintenir à disposition les personnages dont il a été question et qui avaient été arrêtés par ses services. Et après plusieurs échanges, et après qu'il ait tenté, autant que faire se peut, lui qui est juriste de formation, de trouver tous les prétextes légaux requis, un de ses interlocuteurs, un de ses anciens condisciples de Saint-Cyr, lui dit « Écoute, laisse tomber, mes chefs n'en veulent pas ». Et c'est vrai que cet aveu a de quoi nous plonger dans une perplexité sans fond. Car quel que soit le scénario, on y reviendra tout à l'heure, il se trouve que vous avez 9 soldats français appartenant à la force Licorne, une force qui est parée du mandat onusien, qui sont tués lors d'un raid. À ce propos, la thèse de l'erreur de ciblage, me paraît irrecevable pour une raison très simple. Je connais assez bien les lieux, et notamment le fameux lycée Descartes, qui était devenu le quartier général de Licorne au niveau de Boisquet, donc des forces françaises. Et il y avait un immense drapeau bleu, blanc, rouge, qui avait été tendu sur l'un des toits d'un des bâtiments. C'est-à-dire que les Sukhois, qui avaient fait au moins un passage de repérage à basse altitude, leurs pilotes n'ont pas pu ne pas voir le drapeau français. Alors ensuite, sur les deux scénarios qui ont été résumés par Sylvain Descent, l'un donc consistant à dire que ce serait une initiative d'une faction de faucons de l'armée ivoirienne prise à l'insu du président Laurent Gbagbo, l'autre imputant cette tragédie à une manipulation de type billard à trois bandes, hautement risquée d'ailleurs. Les deux thèses, à mon avis, sont assez contestables. La deuxième l'est encore plus parce que je sais bien qu'il y a toujours le pouvoir de séduction des scénarios les plus complotistes, mais on voit mal par quelle malédiction les Français auraient pu faire le calcul consistant à dire « Voyons, nous allons passer des informations erronées à la partie Gbagbo pour laisser croire que le site est vide, en tout cas ne compte aucun militaire français, que peut-être s'y trouvent des lieutenants de Guillaume Soreau et que donc ils peuvent frapper impunément, etc. etc. » Il y a une telle addition d'aléas, de paris risqués, que ça me paraît hautement improbable. Fantaisiste.
D'accord. Mais quelle est finalement votre conclusion, alors, ou bien votre conviction, M. Hugeux, sur cette affaire? La France aurait préféré laisser filer, si je peux m'exprimer ainsi, ces suspects? Parce que, permettez-moi de citer cet élément de l'instruction du dossier, ambassade militaire et agents de renseignement français avaient tous reçu pour consigne de ne pas se mêler de cette affaire, autrement dit, de laisser Paris gérer, c'est-à-dire que les responsables français sur place n'avaient aucune marge de manœuvre. Donc, quelle est votre conviction aujourd'hui?
Soyons très très clairs là-dessus. Si la France officielle s'est comportée de cette manière-là, et quel que soit encore une fois le scénario exact factuellement de ce drame, c'est que la France officielle avait beaucoup à cacher et qu'elle n'avait pas lieu d'être fière de ses actions ou de ses inactions. Car au fond, ce procès, c'est un défilé de fantômes. D'abord, les trois personnes incriminées, le pilote biélorusse Youri Souchkine d'une part, les pilotes et copilotes ivoiriens Patrice Wey et Ange Magloire Niandouillé, aucun des trois ne se trouve à la barre. C'est aussi celui des hauts responsables français, dont on est pourtant très curieux d'entendre la parole. Alors, il semblerait que Dominique de Villepin, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, lui, accepte de venir à la barre. Il en serait de même pour Michel Barnier, qui était le titulaire des affaires étrangères en ce temps-là. Mais Michel Alliot-Marie, qui, fidèle à sa légende, semble vouloir se dérober une fois de plus, elle a forcément des informations capitale et cruciale à fournir. Elle a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas venir, tout ça c'est très loin, etc. Merci. J'espère que le président de la Cour d'assises de Paris, le président Thierry Fusina, fera en sorte de la sommer.
Vous voulez parler d'un mandat d'amener, peut-être ?
Eh bien, j'espère qu'on n'aura pas à venir là, parce que ce ne serait pas se faire une très haute idée de l'opinion qu'elle-même se fait des fonctions qui sont les siennes, mais s'il le fallait, je pense que ce serait indispensable. Merci. Je vous donne un exemple humain et je termine là-dessus. Aujourd'hui même, vous savez que les grandes audiences où les acteurs politiques sont censés s'exprimer à la barre, c'est plutôt autour des 11 et 12 avril. Mais le procès a commencé au début de cette semaine. Et aujourd'hui, vous avez les mamans de deux des victimes françaises de ce raid meurtrier. Ce qu'elles racontent est d'une tristesse obscène. Il y a eu des confusions sur les cercueils. Il y a eu des inversions de cadavres. On leur a juré que leur fils avait été enterré en tenue d'apparat et avec tous les honneurs qui leur revenaient. Elles se sont aperçues qu'ils avaient été enfouis à la va-vite dans des sacs mortuaires sans même que leur corps ait été lavé et sans même que leurs effets personnels, cigarettes, cartes téléphoniques ou téléphone portable, n'aient été ôtés. Merci. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un trouble lorsque vous voyez que la République française est incapable d'abord de dire la vérité des faits et ensuite de traiter ses soldats d'une manière que l'on pourrait qualifier de digne.
Voilà, sans honneur. Merci, monsieur Soumaré. Quand on écoute ces éléments, est-ce que vous pensez que finalement, on saura un jour réellement ce qui s'est passé? On a le sentiment que, côté français, il n'y a aucune volonté, mais alors aucune démarche pour qu'on sache exactement qui était responsable de quoi dans cette attaque.
Mais oui, si vous voulez, c'est une affaire dont l'opacité ne permet pas d'espérer un jour la manifestation de la vérité, en tout cas pas tout de suite, pas à court terme. Cependant, je voudrais faire observer que quand même, comme disait Cher Anta Diop, il ne faut pas attendre que ce soit l'Occident qui chaque fois donne des standards de l'investigation. On peut noter que la Côte d'Ivoire n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte devant la Cour de justice internationale. Elle aurait pu le faire. Elle ne l'a pas fait. On peut noter également que les plaintes sont portées par des personnes privées. L'État français, qui était également en mission en Côte d'Ivoire, aurait pu porter plainte. Elle ne l'a pas fait. Donc, il y a une sorte de...
Ce sont notamment les familles des victimes qui l'ont fait.
Oui, donc des personnes privées. Mais les États, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui, elle, aurait pu porter plainte par rapport au massacre de l'Hôtel Ivoire, par rapport à un certain nombre de faits, par rapport à la destruction de sa flotte aérienne, etc., ne l'a pas fait. La France, qui a eu 9 morts, etc., par un raid, etc., n'a pas porté plainte non plus contre la France.
Monsieur Huger disait tout à l'heure, même venir témoigner, ce n'est pas acquis. Bon. Il y a des ministres
et puis
qui
on voit l'échec des différentes juridictions, parce qu'il y a eu le tribunal des armées de Paris. On voit, lorsque on place un dossier secret défense, il y a une volonté de limiter l'accès à l'information, de restreindre la diffusion de l'information, de protéger cette information. Donc les enquêtes ont été arrêtées au niveau du tribunal des armées. Lorsqu'on voit que la Cour de justice de la République, qui peut juger des ministres en exercice au moment des faits, prononce un non-lieu, vous voyez que nous sommes devant une troisième juridiction aujourd'hui, la Cour. Véritablement, il y a une opacité. Il y a une opacité et il y a une conspiration, je dirais, objective même des deux États.
Merci
Parce
beaucoup.
Il ne faudrait quand même pas oublier que dans la suite, nous avons quand même les présidents Macron et Ouattara qui se sont rencontrés en 2019 et qui ont soutenu la thèse officielle de la tuerie des soldats français à Boaké, oui. Avec une stèle d'ailleurs.
Oui, tout à fait, en mémoire de ces soldats lors de la visite de Macron. Soldats.
Donc cette thèse est bien maintenue par les deux États.
J'aurais bien aimé qu'on écoute Sylvain Guessan, que nous avons perdu, on essaye de le rappeler, lui qui est à Abidjan. Monsieur Huge, donc, pas de plainte côté ivoirien, les Français aussi se montrent discrets, en tout cas pour ce qui est des autorités de l'époque, sont plutôt discrètes sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il semble que d'un côté comme de l'autre, on ne souhaite pas vraiment qu'on en sache un peu plus sur la réalité de cette attaque?
Je vais apporter encore un peu d'eau au moulin de M. Soumaré par rapport aux juridictions qui ont pourtant accompli leur mission. Madame Brigitte Reynaud, qui était à l'époque juge au tribunal des armées, une institution qui a d'ailleurs disparu entre-temps. Elle avait accompli un travail tout à fait honnête. Et elle a fini par admettre, mesa voce elle-même, qu'elle s'était heurtée à un manque de bonne volonté manifeste de beaucoup de ses interlocuteurs officiels français. Encore plus fort, la juge Sabine Kéris, en 2016, elle rédige des conclusions qui sont absolument accablantes, et qui la conduisent à demander que les trois ministres que j'ai mentionnés tout à l'heure, Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin, Michel Barnier, soient déférés devant la Cour de justice de la République. qui est la seule instance qui est habilitée à juger des ministres pour des actions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Eh bien, il se trouve que cette juge, qui avait accompli là aussi un travail remarquable, elle est désavouée par la commission des requêtes de cette Cour de justice de la République. Comment mieux dire que l'on veut, en quelque sorte, protéger les ministres d'une exposition à une vérité qui pourrait être gênante? Je parlais des fantômes tout à l'heure. Je vais encore vous citer quelques-uns. Il semblerait que Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre à l'époque, lui acceptera de témoigner. Mais Robert Montoya, qui était un ancien gendarme de l'Élysée, que j'ai croisé une fois à Lomé précisément, qui était un des fournisseurs des forces de Laurent Gbagbo, à la fois en matériel militaire et en mercenaire, où est-il passé ? Personne ne le sait, et il a vraisemblablement joué un rôle clé dans l'exfiltration des pilotes et des mécaniciens biélorusses. Bon. Ouais. Jean-Jacques Fuentes, un ancien militaire, mercenaire également, même chose. Où est-il ? Nul ne le sait. Le patron de la DGSE de l'époque, il doit en savoir des choses, Pierre Brochand. On va pas me dire que la République française n'a pas les moyens de localiser quelqu'un qui a été le patron de ses services de renseignement extérieur, etc.
Pour le résumer, monsieur, quand vous relevez tous ces faits, c'est en tout cas renforcer la thèse de ceux et celles qui ont la conviction qu'on ne veut pas établir la vérité sur cet acte. Et je m'adresse à monsieur Soumaré à présent. Est-ce que vous pensez que l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI va peut-être donner un autre son à cette affaire, puisque maintenant, il est libre, il n'a plus normalement à s'inquiéter de quoi que ce soit. Allô ?
Oui,
monsieur Soumaré, allez-y.
Vous m'entendez ?
Oui, monsieur Soumaré.
Oui, je pense que le président Gbagbo a des informations, et comme il disait que c'est un contentieux qui n'a pas été réglé. Mais il n'a pas démontré sa volonté de régler ce contentieux. Je pense qu'il a peut-être choisi la voie diplomatique, mais en tout cas pas la voie
judiciaire. Mais on peut peut-être, à sa décharge, dire qu'il avait d'autres chats, si je peux encore me permettre l'expression, à fouetter. Il avait plus d'urgence, c'est-à-dire sa propre liberté. Maintenant qu'il est totalement libre, est-ce que vous pensez que cela va peut-être changer la donne et modifier le discours ?
Je me pose toujours la question des finalités. Aujourd'hui, quel serait son intérêt, puisque hier, son intérêt, quand même, c'était de protéger son pouvoir. Je veux dire, l'armée qui est venue de Boaké en renfort sur Abidjan, qui devait aller à l'hôtel Ivoire, s'est trompée et s'est retrouvée devant son palais, devant sa maison. Et vraisemblablement, il se passait quelque chose. Et si à ce moment, il n'a rien dit, aujourd'hui, dire quelque chose, qu'est-ce que ça va lui apporter ?
D'accord.
Je ne sais pas. La Côte d'Ivoire elle-même, dans la suite de l'État, ne fait rien. Sa juridiction nationale aurait pu agir également. Alors, d'ailleurs, comme disait la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, c'est que l'inaction, elle a considéré que l'inaction des protagonistes n'était pas constitutif d'une infraction pénale.
Merci beaucoup. On revient dans quelques instants, messieurs, pour conclure notre débat sur le bombardement du camp militaire français à Boaké en 2004 en Côte d'Ivoire.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous reparlons ce soir de l'offensive de l'armée ivoirienne sur une position des forces françaises licornes en Côte d'Ivoire en 2004, 16 ans après les faits, alors que le procès s'est ouvert cette semaine à Paris. Et nous avons deux des trois invités pour conclure cette émission. Il s'agit de Pierre-Ali Soumaré, juriste, auditeur, écrivain, et Vincent Hugeux, journaliste, essayiste et enseignant à Sciences Po. Et je voudrais signaler, messieurs, que Sylvain Guesson a dû partir en urgence pour des raisons que nous ne sommes donc pas, nous ne pouvons pas partager avec vous. Donc, Sylvain Guesson, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Et je reviens à vous, M. Vincent Hugieux. Donc, vous avez donné un certain nombre d'éléments, de même que d'autres intervenants, qui tendent à croire que c'est vraiment une affaire d'État. Qui avait donc intérêt à ce que les choses se passent ainsi? Je veux dire, cette affaire d'État aujourd'hui, c'est au profit de qui, 16 ans après les faits?
Le mystère reste épais. Je crois, sinon je ferai un autre métier que le mien, que nous connaîtrons la vérité un jour. Je n'adhère pas du tout à la thèse qui voudrait que ce type de vérité-là n'ait jamais dévoilé. Il le sera. Je me souviens très bien qu'à l'époque, selon que vous discutiez avec des diplomates, avec des militaires, avec des professionnels du renseignement, vous aviez à peu près tout l'éventail des thèses possibles. L'une de ces thèses étant que c'était Laurent Gbagbo lui-même qui aurait été le donneur d'ordre, en quelque sorte, qui aurait donné instruction d'eux. Je tends à ne pas y croire, parce que je pense qu'il avait conscience que c'était un calcul extrêmement hasardeux.
Et dangereux.
Souvenons-nous du contexte, c'est que quand le dispositif Licorne se met en place, donc après le coup de force avorté des rebelles nordistes, qui a été rappelé par M. Soumaré tout à l'heure, donc septembre 2002, de mémoire, la France, elle est suspecte des deux côtés. Les forces de Guillaume Soro lui reprochent d'avoir enrayé leur offensive vers le sud, vers Abidjan, et les forces loyales à Laurent Gbagbo prétendent que le dispositif Licorne, qui est donc une interposition qui coupe le pays des éléphants en deux, entrave la reconquête du Nord perdu. Donc, de toute façon, la France est entre le marteau et l'enclume. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est qu'à l'époque, j'avais discuté avec celui qui était l'ambassadeur de France à Abidjan, qui peut-être d'ailleurs comparaîtra le moment venu lors de ce procès. Et il avait vu Laurent Gbagbo très peu de temps après la séquence des événements, le raid sur le lycée Descartes d'une part, et ensuite les représailles dévastatrices de la France à Yamoussoukro. Et il m'avait raconté avoir rencontré un Laurent Gbagbo hébété, c'était le mot qu'il avait employé, je m'en souviens très bien, et qui semblait, ou alors c'est un acteur qui mériterait d'être oscarisé à vie, mais il avait l'air absolument sous le choc. C'est la raison pour laquelle j'écarte les deux hypothèses les plus complotistes, celle qui voudrait que ce soit Laurent Gbagbo qui soit lancé dans cette aventure, et celle qui voudrait que ce soit la France qui, encore une fois, au prix d'une manipulation incroyablement hasardeuse, aurait déclenché ce qui sera ensuite une crise aiguë et meurtrière avec les populations ivoiriennes.
Monsieur Soumaré, avec le recul aujourd'hui, hein, on est 16 ans après les faits, est-ce qu'on peut dire que la thèse d'une implication, d'une manipulation française est plus forte aujourd'hui, vu les faits, les éléments que vous avez mis dans le débat ce soir?
Mais aujourd'hui, moi, je dirais que lorsqu'on regarde bien le déroulement des faits, on s'aperçoit que les avions sont partis quand même de Yamoussoukro, et Yamoussoukro était quand même sous la protection et la garde de l'armée française. Donc, je veux dire, ces mercenaires biélorusses et ivoiriens, donc le raid, l'initiative est connue de la France. Et la France ne réagit pas, et ça se passe donc de connivence avec la France. Moi, je pense que c'est pendant l'opération, il s'est passé quelque chose d'imprévu. Et à partir de là, ce qu'ils avaient, c'est que la France et la Côte d'Ivoire avaient un accord, s'est disloqué. Et je pense que c'est à partir de là que chacun essaye de son côté de cacher la vérité. Mais en définitive, il n'y a que les victimes qui sont perdantes dans cette affaire.
Qui passent, semble-t-il, par perte et profit, puisqu'on disait que, vu comment se déroule le procès, déjà les principaux accusés ne sont pas là, on pourrait ne pas, finalement, au bout du compte, établir la vérité sur cette affaire, M. Hugieux.
C'est évidemment... que l'on peut éprouver et ce qui sera vécu comme une nouvelle insulte à la mémoire des victimes, les 9 Français et l'Américain. N'oublions pas aussi les 38 blessés, hein, dont certains traînent encore aujourd'hui dans leur quotidien les conséquences de cette tragédie. Et c'est vrai que, en écoutant M. Soumaré, je me dis au fond, une des hypothèses qui serait le plus crédible, sous bénéfice aussi d'inventaire bien sûr, serait qu'effectivement, à un moment donné, il y ait eu un calcul de nature politique qui n'incluait évidemment pas mort d'homme, mais dont tel ou tel parti pensait pouvoir tirer profit dans cette période de tension incandescente que nous avons essayé de retracer tout à l'heure, et que effectivement il y a un grain de sable dans une mécanique qui se voulait de précision, qui a fait déraper le processus, et à partir de là, personne évidemment n'a voulu assumer
le fiasco qui s'en est suivi
considérable de cette bourde tactique ou de cet incident de parcours. Et c'est là qu'on entre dans la logique de la dérobade, des enterrements en catimini, des inversions de cercueil que j'évoquais tout à l'heure, du courage fuyon, etc. etc. J'avoue que ça me paraît être le schéma, en tout cas théorique, le plus convaincant à ce stade.
Mais on a quand même l'impression qu'au niveau des politiques, il y a des initiatives, il y a eu des initiatives. Je pourrais peut-être parler de l'activisme. Monsieur Soumaré parlait tout à l'heure de la visite en 2019 d'Emmanuel Macron à Boaké, avec la réfection même du lycée touché. Il y a aussi cet hommage rendu avant cela, juste après les faits, par le président Chirac de l'époque, aux soldats. Pourquoi toutes ces actions politiques alors que sur le plan de la justice, il y a des entraves perceptibles et visibles ?
Ben écoutez, moi quelque chose me vient à l'esprit sans pour autant établir d'analogie acrobatique. Mais on l'a vu au niveau de la commission présidée par Vincent Buclair. À l'évidence, Emmanuel Macron... Absolument, sur le Rwanda. Emmanuel Macron, qui pour une raison, je dirais, générationnelle, peut se sentir libre de certaines pesanteurs connues par ses prédécesseurs, a voulu faire en sorte que la vérité factuelle soit établie, même si certains documents n'ont pas pu être traités par la commission en question. Mais c'est donc, soyons clairs, c'est une démarche de vérité. On prend le risque de la vérité et du prix qui lui est attaché. Eh bien, j'ai envie de dire, mais pourquoi n'appliquerait-on pas la même doctrine sur un cas comme celui-là, même si on va m'expliquer que c'est un processus judiciaire, que la justice est indépendante, etc., etc. Mais enfin, quand même, il me semble qu'il est du devoir de tous les acteurs politiques d'hier et d'aujourd'hui de venir apporter leur pierre à l'édifice de cette vérité. Donc, je crois que
au moins pour les familles des victimes.
Absolument. Si tout le monde dit tout ce qu'il sait, on avancera et on pourra sortir de l'ornière que j'évoquais tout à l'heure, du « au fond, on ne saura jamais ».
Merci beaucoup Vincent Hugieux, journaliste, essayiste et enseignant à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial » aux éditions Perrin à Paris. Merci à vous Pierre-Ali Soumaré, juriste, auditeur, écrivain et auteur du livre « L'homme face à sa finalité » aux éditions du Panthéon ici à Paris, et à Sylvain Guessant, analyste politique, directeur de l'Institut Stratégie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.